Alain Vienne, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'un objet tout à fait particulier aujourd'hui.
Oui, la grande lunette de l'Observatoire de Lille et l'Observatoire lui-même.
Ça fait rêver, on se croirait dans Jules Verne.
Oui, c'est ça. Oui, les gens qui viennent visiter, les étudiants, les grands publics quelquefois, sont tout de suite ébahis par cette lunette. Nous, on s'y habitue, mais c'est vrai que c'est bon, on se croirait dans Tintin ou Jules Verne.
Donc, cet objet, je suppose qu'il est magnifique, hein, en plus d'être fonctionnel.
Oui, il est fonctionnel surtout, il est magnifique, ça dépend des yeux, les yeux qui les regardent. Hein, mais il est fonctionnel, en fait, il a toujours été en état pratiquement depuis plus de 100 ans. Je dis plus de 100 ans parce que le centenaire qu'on fête ici, c'est le centenaire de l'Observatoire de l'Université de Lille. La lunette elle-même, maintenant, elle a 103 ans, parce qu'il y a 3 ans, on a fêté le centenaire de la lunette. Hein. Mais c'est 3 ans après que l'Observatoire a été déclaré officiellement, c'est pour ça qu'on fête ça, officiellement, Observatoire de l'Université de Lille. Donc cette lunette a toujours été fonctionnelle et elle permet, elle a surtout été utilisée pour observer les étoiles doubles, c'est-à-dire des étoiles où il y a deux étoiles, même quelquefois plus, hein, des étoiles multiples qui tournent l'une autour de l'autre, ce qui permet de faire des mesures très intéressantes. Et nous, maintenant, on l'utilise aussi pour des observations planétaires. Elle est très bien pour observer des planètes et des choses comme ça. Bien sûr, on est un peu gêné par la pollution lumineuse, mais des grands objets brillants comme Jupiter, Saturne, Mars, on peut faire encore de très intéressantes mesures, surtout pour les étudiants.
Est-ce qu'il y a 100 ans, il y avait moins de pollution dans la région ?
Oui. C'est dans la région et ailleurs. Donc là, j'ai pas de chiffres pour dans le coin de l'observatoire. On ne s'est pas vraiment intéressé à ça, mais l'observatoire était à la périphérie de Lille à cette époque-là. Il se trouvait près des remparts. Maintenant, c'est le périphérique. D'ailleurs, il faut que je rectifie parce que c'est un petit peu compliqué. L'observatoire de l'Université de Lille a 100 ans, enfin on aura 100 ans le 6 juillet, mais l'observatoire de Lille, de l'Université de Lille qui se trouve à Lille, a été construit en 1933. Donc on aura encore un autre centenaire en 2033, mais on a le temps de voir.
On a le temps un peu.
Et donc avant il était à M. À M, donc il a été fondé en 1909 à M. Donc sur une petite colline près de Roubaix, là, pas très loin de l'usine de Roubaix, pour ceux qui connaissent, hein, rue Alfred Mode, il me semble. Et là, il faisait noir, il faisait bien noir aussi. Hein, c'était quelque chose. Le ciel était bien un peu lumineux, quoi. Idéal.
C'est drôle parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là, on était en pleine révolution industrielle. Il y avait des usines de partout et de la fumée, etc. Et visiblement, ce n'est pas ça.
Oui, il y avait sûrement de la fumée. Celui qui a fondé l'observatoire, c'est Robert Jonker, à M, près des filatures de Roubaix. Il était lui-même, son père possédait une filature à Roubaix, donc on est en plein dedans. Mais apparemment, il a fait attention de mettre ça à l'écart des filatures, quoi. Mm-hmm. Puis je ne suis pas connaisseur de ces choses-là. Mm-hmm. Je ne sais pas si les filatures émettent beaucoup de fumée. Hein. C'est pas la sidérurgie encore. Hein,
donc, ouais, c'est voilà. Ça. Donc, à l'époque, c'était révolutionnaire, un tel engin ?
Non, mais c'était. Pour l'époque, c'était un très grand instrument. C'est encore un instrument professionnel, mais c'est un très grand instrument. Maintenant, évidemment, la lunette, elle fait 6 mètres de long, de longueur focale, on dit, et 30 cm de diamètre, donc l'ouverture, 30 cm. Donc ça, c'est maintenant, c'est la cinquième plus grande lunette de France, mais en télescope, il y a plus grand, et puis dans le monde, il y a beaucoup plus grand maintenant. Mais à l'époque, c'était énorme, c'était les plus grands, c'était vraiment, comme on dirait, l'observatoire de Haute-Provence actuellement, quoi.
Est-ce que les pays du monde étaient équipés de ce genre de lunettes déjà, à ce moment-là, ou c'était je vais pas dire une exception française?
Non, il y avait l'observatoire de Paris, l'observatoire de Meudon, qui avait des lunettes qui datent un peu plus anciennes, qui est la plus grande d'Europe d'ailleurs, hein. La plus grande de France, automatiquement. C'était l'une des plus grandes, et c'était à l'époque, c'était surtout des lunettes. Il y avait encore des télescopes, mais le règne des lunettes était encore important. Alors je ne sais pas si vos éditeurs connaissent la différence entre lunettes et télescopes. Voilà, donc lunettes, c'est, comme là sur mes yeux, vous ne voyez pas, mais j'ai une paire de lunettes, c'est un verre. Donc la lumière traverse un verre et ça focalise les rayons au foyer, c'est là qu'on regarde l'image. Un télescope, c'est le principe le même, on focalise les rayons à un point donné où il y a l'image, mais par un miroir, qui est parabolique. Donc voilà, quand on dit j'ai une paire de lunettes ou une lunette, c'est le lien entre les deux est là, quoi. Et maintenant, c'est surtout des télescopes qu'on construit, parce que les télescopes, d'un point de vue mécanique, c'est plus facile, on arrive à aller beaucoup plus loin en diamètre d'ouverture avec des télescopes qu'avec des lunettes. La plus grande lunette du monde, c'est la lunette de Yerkes aux États-Unis, qui fait 1 mètre de diamètre, c'est le maximum qu'on puisse faire, parce qu'après, il y a des contraintes mécaniques qui font que ça se déforme et ça ne va plus, quoi.
Donc, cette lunette, a priori, elle reste fixe ou bien elle peut bouger? C'est une lunette mobile ou pas?
Ça dépend ce que vous appelez mobile. Elle est fixe au point où elle est posée dans l'observatoire. Ensuite, elle est mobile dans le sens où elle peut se diriger dans toutes les directions du ciel. Donc, selon une monture qu'on appelle une monture équatoriale. C'est-à-dire qu'elle pivote selon deux axes. Dont l'un des axes est l'axe de rotation de la Terre, l'axe des pôles, entre le pôle céleste nord, le pôle céleste sud, la polaire. L'une qui est dirigée vers la polaire, l'autre côté, le pôle céleste sud, on ne voit rien. Mais voilà, c'est souvent ces deux axes-là. Ça permet en fait surtout de pouvoir suivre le mouvement diurne, c'est-à-dire le mouvement des étoiles dans le ciel, quand elles se lèvent jusqu'à ce qu'elles se couchent. Et comme elle grossit beaucoup et que quelquefois on fait des temps de pause de quelques minutes, ça permet de ne pas avoir le bouger, le flou, quoi. Donc, et de suivre l'étoile sans la perdre dans le champ.
Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des photos, par exemple?
Oui, bien sûr. On fait des photos, on n'en fait plus maintenant actuellement. Par contre, on utilise des caméras CCD ou une caméra normale, webcam, qui pour enregistrer les... Ce qu'on veut, c'est garder, comme pour les photos avant, garder les images pour ensuite les analyser. D'ailleurs, toute l'astronomie professionnelle, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. On va chercher des mesures, des photos, et puis après, on passe encore beaucoup plus de temps à analyser les données que l'on a, puisqu'on dit les données. Maintenant, on fait aussi beaucoup d'observations à l'œil nu, mais c'est plus pour le plaisir, ou alors pour des TP d'étudiants, quand on veut simplement manipuler la lunette pour trouver les positions dans le ciel, parce que c'est quand même bien agréable aussi des fois de regarder, voir Saturne, ou la Lune, ou Mars, en vrai, à travers la lunette, mais en vrai.
Est-ce qu'un scientifique peut encore avoir des surprises en regardant dans une lunette?
Oui. Oui, mais pas ici à l'Observatoire de Lille, je pense pas, parce que justement, on est gêné par la pollution lumineuse. Donc maintenant, on ne fait plus de découvertes d'objets nouveaux ou d'un événement nouveau dans l'univers, parce que là, il faut absolument avoir un ciel extrêmement pur. Et c'est pour ça que les nouveaux observatoires maintenant sont dans des pays, au Chili, dans des déserts bien secs, en haute altitude pour éviter d'avoir de la vapeur d'eau dans le ciel, etc. Donc c'est là qu'on fait vraiment... Là, on peut avoir des surprises, en effet. Ici, nous... non, il n'y en a plus. Il y a toujours du plaisir. Mais si vous voulez, d'un point de vue de la recherche, elle n'est plus à la pointe de la recherche. C'est un instrument encore scientifique, dans le sens où ça nous permet de tester nos instruments avant de les utiliser ailleurs, et puis aussi, surtout pédagogique pour les étudiants de l'Université Lille.
Les chercheurs de l'époque, donc il y a un siècle, est-ce qu'ils ont décrit des phénomènes particuliers à partir de leurs observations dans cette lunette?
Parce que cette lunette-là, elle est surtout son grand haut fait d'armes, c'est la découverte d'étoiles doubles. Alors c'est vrai que c'est pas spectaculaire, maintenant ça ne l'est plus spectaculaire, mais Robert Jonker qui a fondé cette lunette-là, qui a été astronome professionnel jusque dans les années 70, qui est rentré au CNRS en 1943, je crois. C'est le deuxième plus grand découvreur d'étoiles doubles du monde. Les étoiles doubles, c'est important parce que c'est la seule mesure directe pour avoir la masse des étoiles. Si je peux rentrer un tout petit peu dans la technique, si on peut dire, on mesure l'écart angulaire entre deux étoiles doubles. Une étoile double, pardon, c'est deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Et donc elle tourne avec une certaine période, 10 ans, 70 ans, 150 ans, donc ça c'est la période correspondante, et il tourne à une certaine distance entre les deux. Et le rapport, il y a une loi, la fameuse troisième loi de Kepler, qui donne, en connaissant la période avec laquelle les l'une et l'autre tournent autour, et la distance entre ces deux étoiles, on a la masse des étoiles. Et c'est la seule manière directe et fiable d'avoir la masse des étoiles. Après, il y a d'autres méthodes pour des objets plus lointains, mais c'est des méthodes indirectes. Ils ont été calés justement sur ces mesures-là. Donc c'est très important d'un point de vue scientifique. Et donc il existe un catalogue, le catalogue Jonker, qu'on expose d'ailleurs à l'Observatoire de Lille, ce qui est son catalogue d'étoiles doubles, qui a recensé toutes ces mesures. Donc ça, c'est son grand fait d'armes.
Alors, je vais commencer des questions stupides. Par exemple, est-ce qu'une étoile qui est plus grosse éclaire davantage ?
Qui est plus grosse, qui apparaît plus grosse à l'œil dans le... Si elle apparaît plus grosse, c'est parce qu'elle éclaire davantage. Mais elle n'est pas spécialement plus grosse, justement. C'est comme un lampadaire qui apparaît plus ou moins lumineux. C'est comme si vous aviez toute une série de lampadaires, mais celui qui est plus loin est moins lumineux. Maintenant, imaginons que vous avez toutes des séries de... toutes des lampes, mais de puissances différentes, mis dans un champ. Des très grandes, des lampes très brillantes mais loin, des lampes brillantes près, des lampes peu brillantes mais loin, des lampes peu brillantes près. Bon, ben, y a certaines lampes peu brillantes, on pourrait dire étoiles hein, maintenant, des étoiles peu brillantes près apparaîtront à nous aussi brillantes que celles qui sont plus, celles qui sont plus loin, mais beaucoup plus brillantes. Par contre, celles qui sont peu brillantes et loin, on ne les voit pas, ou alors il faut encore de plus gros instruments. Tout ça, ça vient du fait qu'on n'a pas au premier abord, on n'a pas accès à la distance des étoiles. Donc on ne voit que des points.
Est-ce qu'on pourrait donner quelques étoiles très proches de la Terre ?
Il y a Proxima du Centaure, ça c'est la plus connue, justement c'est d'où son nom. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche du Soleil. Elle est à 4 années-lumière. Après, en tête, je n'ai pas les noms des étoiles les plus proches. Elles sont à 10 années-lumière, 15 années-lumière. En réalité, à l'œil nu, les étoiles qu'on voit à l'œil nu, il y en a quelques milliers, 3000, 4000. Et ce sont toutes des étoiles proches, à certains points de vue, par rapport à toutes les étoiles de la galaxie, de notre galaxie. Toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu, ce sont des étoiles, c'est dans le voisinage du Soleil.
Donc ces étoiles, on les voit plus ou moins selon la période. Là, il y en a une qu'on voit de plus en plus forte, de plus en plus grosse, j'ai l'impression. Je la vois souvent, celle-là.
Laquelle ?
Je ne sais pas laquelle, mais je la vois vraiment de plus en plus grosse.
À ce moment-là, ce n'est peut-être pas une étoile. C'est parce que les étoiles, normalement, leur éclat ne varie pas. Sauf justement des étoiles variables, mais ce n'est pas facile à distinguer à l'œil nu. Par contre, ce qu'on distingue très facilement, c'est les différences d'éclat des planètes. Donc quand Mars, Jupiter arrivent près de l'opposition... Leur éclat augmente. En ce moment, là, c'est peut-être un peu diminué, mais il y avait un moment où on voyait très bien Vénus. Hein.
C'est ça, ouais.
Vénus, il y avait encore un mois, il me semble.
C'était énorme.
Vénus était éclatant, près de la Lune, près de Jupiter, car Jupiter n'était pas loin. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire d'un point de vue scientifique, mais ça faisait plaisir. Quoi, ouais, ouais.
Concurrencer la Lune, c'est quand même pas mal. Hein.
Oui, oui. Bon, on est loin quand même. Mais c'est quand même un point qui est éclatant. Hein. C'est vrai que quelquefois, c'est tellement impressionnant que certaines personnes se demandent si vraiment c'est une planète et se demandent si c'est pas un ovni. C'est déjà arrivé qu'on ait eu des coups de fil à l'observatoire en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis tu nous donnes la direction, dis « non, ça c'est Vénus ».
Alors, est-ce qu'un observatoire peut aussi, par exemple, pourrait identifier des ovnis, par exemple ?
Non. Ben, d'abord, OVNI, par définition, c'est non identifié. Objet volant non identifié. Non, parce que c'est un travail d'enquête. Et puis là-dessus, c'est un peu spécial. Il faut recueillir... c'est pas mon domaine, hein, mais je sais quand même comment ça se passe. Il faut recueillir le témoignage, le vérifier. Alors bien sûr, la partie astronomique, ça me concerne. Hein. Enfin, ça nous concerne. On peut vérifier, mais ça peut être des tas d'autres phénomènes astronautiques... météorologique, enfin, il faut éliminer toutes les autres causes. Et en général, d'après les statistiques, souvent on finit par identifier les rares cas où on n'arrive pas à éliminer les autres causes. Bon, ben, ça reste non identifié, mais c'est tout.
En général, les hommes que vous êtes, les chercheurs, ont la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre.
Oh, ça dépend des personnes. Les astronomes ont tous la tête dans les étoiles, bien sûr. Après, est-ce qu'ils ont les pieds sur Terre ? Ça dépend des astronomes, comme de tout à chacun. comme la moyenne de la population, quoi, parce que ce sont des hommes.
Est-ce qu'il y a un côté magique, un petit peu aventurier aussi à être chercheur dans ce domaine ?
Je pense que c'est valable pour tous les domaines de la recherche quand même. Donc c'est... Par contre, ce qui est spécifique à l'astronomie, c'est cette sensation comment dire, de toucher à l'infini, enfin en tout cas de s'en occuper, on ne touche pas, mais vous voyez, moi je pense toujours au Petit Prince de Saint-Exupéry. Bon, là c'était un banquier, donc je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais il comptait les étoiles, et puis ça, je ne sais pas quel chiffre il était, mais il était très loin, et puis il était très content parce qu'il avait l'impression de les posséder, c'était à lui. Et le Petit Prince s'étonnait, dit, mais non. Et nous, ça, on n'est pas comme le banquier, on ne cherche pas à les posséder, mais le fait de s'en occuper, moi je m'occupe des satellites de Saturne, je refais leurs éphémérides, donc j'ai l'impression que dans la communauté, quand on parle de mouvement de satellites de Saturne, c'est à l'invienne. Et donc du coup, c'est un peu comme si je me les appropriais. Évidemment, ils n'ont pas besoin de moi pour tourner en réalité, hein, mais c'est ce côté-là qui est magique quand même, c'est qu'on a... C'est des choses qu'on ne peut pas toucher, qui est loin, l'infini, bon, et on se les approprie, en tout cas on les regarde.
Est-ce qu'on imagine, par exemple, là, quand vous voyez avec des outils aussi puissants, finalement, qui sont de plus en plus puissants, on repousse les limites de l'infini, est-ce qu'on imagine quand même une fin à ce monde quand on est chercheur ? C'est possible d'imaginer une fin ?
Oui, c'est possible d'imaginer une fin, il y en a qui le supposent, mais là on arrive dans le domaine de la cosmologie, et justement ceux qui repoussent les limites de l'univers, là, pour être honnête, c'est pas mon domaine. Nous, à l'Observatoire de Lille, on s'occupe beaucoup plutôt de la dynamique du système solaire, la planétologie, comment évolue le système solaire, d'où il vient, comment il va évoluer, donc une fin au système solaire, mais comment il est né, pour bien comprendre comment marchent les autres systèmes solaires, donc on n'est pas trop sur la cosmologie. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de travail là-dessus. Alors le système solaire, oui, on essaie de comprendre comment il est né, comment il est... et quelle fin il aura. Ça, c'est, on s'en doute assez bien parce que ça sera lié à la fin du Soleil. Mais surtout, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, comment les systèmes de satellites sont nés, comment ils sont arrivés à cette place-là. Et avec la découverte maintenant des exoplanètes, des planètes autres que celles du Soleil. Parce qu'on se doutait bien qu'il y en avait, mais on n'en avait jamais vu. Donc dernièrement, on a vu. Maintenant, il y en a plein. Enfin, on en a vu, on les a détectés. Et on s'est rendu compte que ces planètes, ces systèmes planétaires, sont, pour finir, pas très différents de notre système solaire. Avant, tous les systèmes qu'on étudiait, on pensait que c'était, le système solaire était un système normal, typique en tout cas. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant parce que ça... Quand ça bouscule les idées qu'on avait précédemment, ben il faut ça ouvre d'autres questions, mais ça a répondu quand même à pas mal de questions précédentes, quoi.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de matière à recherche et à trouver des choses qui peuvent être plus qu'utiles, voire nécessaires dans un monde futur ?
Oui, il y a plein... Oh, bon, là, je venais de parler du système solaire, parce que essayer de comprendre comment se forme le système solaire, c'est important pour essayer de savoir comment ça se forme dans les systèmes d'exoplanètes, notamment si des planètes de la taille de la Terre se forment facilement ou pas, à quelle distance peuvent être pour la recherche de la vie dans l'univers. Ça, c'est un truc que un thème que le grand public aime bien, mais que les chercheurs, ça les tracasse autant, quoi, hein, d'étudier la question. Après, il y a d'autres questions liées à la physique, la recherche de particules dont on soupçonne l'existence, mais dont on n'a pas la preuve. L'astronomie, l'étude de l'univers permet de... C'est un formidable laboratoire, quoi. Parce que tout ce qu'on des lois qu'on fait en laboratoire terrestre, c'est bien, mais dans l'univers, il y a des conditions de laboratoire qu'on ne retrouve pas sur Terre, évidemment.
On savait qu'on pouvait se demander à un moment ce qui pouvait faire réchauffer la planète. Ça aurait pu être le rapprochement d'une étoile très chaude. Mais là, on est visiblement sur d'autres problèmes qui sont liés au comportement humain et à l'industrie, par exemple. Mmh. Est-ce que vous avez aussi des solutions ou vous voyez des choses qui peuvent être utiles pour servir la science, mais la science liée justement à ces problèmes, pas seulement météorologiques, mais aussi ces problèmes d'environnement ?
Oui, par rapport au problème du réchauffement climatique, bon, évidemment, ça concerne beaucoup les climatologues et puis après, par suite, les planétologues quand même, donc du coup, les astronomes. Là aussi, c'est important de comprendre parce que, par exemple, sur Vénus, c'est une planète sur laquelle l'effet de serre s'est emballé. Et c'est pour ça qu'il fait extraordinairement chaud sur Vénus. Sur Mars, au contraire, il fait très très froid. Alors que Vénus et Mars sont peut-être pas dans la zone habitable, comme on dit, c'est-à-dire la bonne distance au Soleil pour qu'on ait les fameux 20 degrés, à température de moyenne de 0,20 degrés pour qu'il y ait de l'eau liquide. Vénus et Mars ne sont pas très loin de la zone habitable, mais tous les deux ont évolué très différemment. La Terre, elle, dans un équilibre, apparemment pas si stable que ça, quoi, à l'échelle. Alors que maintenant, est-ce que l'homme a une influence ou pas, là, apparemment. Comment dire, sur des courtes échelles de temps, quand je dis de courtes échelles de temps, ça veut dire des quelques siècles, hein, parce qu'en ce moment, on parle en millions, milliards d'années. Oui, c'est sûr, le réchauffement qu'on observe actuellement, c'est dû à l'homme, ça. Mais les données données par les météorologues sont suffisamment claires. Nous, ce qu'on peut apporter, justement, c'est quand on voit comment se sont formés d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires, ben, de voir quelles sont les constantes dans les systèmes, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas toucher, quoi. Et puis aller voir, quand on étudie d'autres planètes, bah on se rend compte que c'est pas si facile que ça d'avoir les conditions qu'on a sur Terre. Et donc, avant d'espérer d'aller explorer, enfin explorer on le fait, mais d'aller coloniser, comme on disait au siècle passé, au 19e siècle, d'autres planètes, il faut être capable déjà de garder celle que l'on a, quoi.
C'est sûr que c'est pas gagné d'aller partout, comme on prend la voiture ou on prend le
Voilà.
train, hein, c'est évident. Donc, il y a aussi une chose qui est assez étonnante, enfin pour nous communs des mortels, on ne voit pas très bien quand on voit un astre qui est très très loin. Son image nous vient après parfois plusieurs années, et l'astre ou ce que l'on voit en fait. Peut éventuellement avoir disparu entre-temps, c'est quand même quelque chose qui peut choquer, non?
C'est vrai que je remarque que ça choque beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde. Moi, ça me choque pas. Je peux essayer de donner une raison. D'abord, tout à l'heure, quand je disais que la plus proche étoile est à 4 années-lumière, donc là, maintenant, c'est peut-être l'occasion de préciser ce que ça veut dire 4 années-lumière. Ça veut dire qu'elle a une distance telle que la lumière met 4 années pour nous parvenir. C'est-à-dire que, ben, on pourrait faire le calcul, mais la vitesse va à 300 000 km par seconde et 300 000 fois le nombre de secondes qu'il y a dans un an, ça fait le nombre de kilomètres de 4 années-lumière que je ne connais pas. Le Soleil, lui, est à 8 minutes-lumière. Mars, ça dépend de sa position, hein, donc quelques minutes-lumière. Elle peut être même à 40 minutes-lumière si elle est de l'autre côté du Soleil. D'ailleurs, ça pose problème si on envoyait une mission habitée, une mission habitée sur Mars, parce que je vous parle, vous me posez une question. Ben, je pourrais que vous répondre que dans 40 minutes. Et vous recevrez la réponse que 40 minutes plus tard. Donc ça pose quand même quelques problèmes. Ensuite, donc pour revenir à l'univers, donc 4 années-lumière, c'est la plus proche étoile. Et la galaxie elle-même, c'est 100 000 années, que je me trompe pas, 300 000 années-lumière de diamètre. Et les autres galaxies sont encore plus loin. Et donc c'est vrai que quelquefois, quand on voit une étoile, qui sont suffisamment loin, on peut dire, on la voit, mais elle est peut-être déjà éteinte, ce qui n'est pas du tout improbable.
Voilà, bah, Alain Vienne, on va se quitter aussi sur cette idée que peut-être on verra des étoiles qui vont se créer et qui existent déjà.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.